Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris, on retrouve tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris pour une émission spéciale best-of dans laquelle vous retrouverez le meilleur et le pire de nos chroniques. Il y aura de l'astuce santé-bonheur, des piqûres de rappel, des mots du médecin, des expressions rigolotes et évidemment le pire des forums. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors pour cette émission spéciale best-of, on voulait surtout vous souhaiter tous nos voeux de bonne année et de bonne santé, docteur Guillaume.
Bonjour, bonsoir
et bonne année.
Bonne année 2016.
On s'est tous réunis pour vous souhaiter une bonne année. Oui. Voilà. Docteur Marion, voilà. Vous êtes là, même de bonne humeur.
Oui, oui. Tout à fait, même de bonne humeur. Un 2 janvier, c'est pas évident.
Ça pique un peu.
Et fraîche. Ce sera le but de cette nouvelle année, être fraîche chaque jour.
Chaque jour être fraîche. Docteur Julie qui nous rejoint après avoir été vomir. Salut docteur Julie. Petite indigestion.
Bonjour,
ce sont les huîtres.
Bonne année à tous. Bonne année.
Rien à voir avec les litres de vin sur les huîtres qui n'étaient pas fraîches.
Bonne année, bonne santé, que du bonheur. Que du bonheur surtout pour vous, docteur Loïc.
C'est gentil, mais vous aussi, docteur Julie et docteur Léo, votre voix.
Eh ben, elle est toujours là.
Quelle entrée en matière hein, pour 2016, on est très très bon là. Bonne année à tous. Ouais.
Bonne année à tous et on se retrouve pour le best-of de l'année 2015.
Maintenant, la suite de nos informations.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux, c'est celle profonde et caverneuse de notre docteur Léo. Et cette semaine, vous nous parlez du bulletin de santé avec une fameuse date qui est...
Le 16 septembre 1966, c'est la date à laquelle Brassens, comme il le chante, a perdu ses bajoux, sa bedaine et qu'on lui suppose un mal qui ne pardonne pas.
J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'esculape et le laisse baba.
Le 16 septembre 1966, c'est la date où, pour la première fois, et sur la scène du Théâtre National Populaire, Brassens chante son bulletin de santé. Alors, le bulletin de santé, c'est l'un de ses titres phares de son album de novembre 1966, toujours, qui se nomme « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ». Alors, pour la petite anecdote, l'album est sorti sans titre au départ, et il a donc été identifié par la première chanson du disque. Mais alors revenons quand même à notre bulletin de santé de Tonton Georges. Alors la chanson est une réponse à une rumeur lancée par des journalistes qui auraient constaté la perte subite de poids de Brassens et en auraient déduit qu'il serait pris d'un mal dont on cache le nom. Alors Brassens prend sa guitare et son plus bel accent c'est toi pour établir fièrement la vérité. S'il a perdu du poids et qu'il a donc trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est parce qu'il baise et quel poète, quelle poésie.
Merci, mais hein, j'aime quand vous nous parlez poésie. En voilà. Cas, j'aime ce genre de poésie, docteur Léo.
Petite poésie grivoise. Alors il en profite d'ailleurs pour stailler les chroniqueurs et commentateurs des gazettes en affirmant que sur sa longue liste se trouvent pas mal de femmes de journalistes qui, le pensant proche d'une mort, donnent toute leur foi à lui donner un peu de bonheur une dernière fois. Et on retrouve bien ici le pornographe du phonographe qui chante les fleurs mais celles qui poussent près des bordels.
Le talent, le génie, loin s'en faut, pas une seule encore ne m'a crié bravo. Entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste, rose un bon nombre de femmes, de journalistes, qui me pensent en fichu, mettent toute leur foi à me donner du bonheur une dernière fois. C'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est magnifique, et dans les positions les plus pornographiques, je leur rends les honneurs à fesses rabattues. Sur des tas de bouillons, des paquets d'invendus.
Alors le bulletin de santé est, comme son titre l'annonce, l'occasion pour Brassens de nous livrer quelques références médicales. Il cite elle-même Esculape, le dieu de la médecine dans la mythologie romaine, mais également Hippocrate et Galien, de célèbres médecins de l'Antiquité grecque cette fois. Mais surtout, le bulletin de santé est une œuvre où l'on retrouve tout un tas de thèmes classiques chez Brassens, le sexe, les relations amoureuses, la liberté, les cocus, le clergé, le poids de la pensée dominante, de l'hypocrisie et de la rumeur. Alors malheureusement, la chronique ne nous permettra pas d'élaborer sur tous ces thèmes, mais j'aimerais quand même aujourd'hui finir par une petite astuce santé, on ne devrait pas oublier le thème de l'émission, et donc essayer de perdre du poids en suivant les bons conseils prodigués par Tonton Georges en hommage au poète et à son verbe haut.
Merci, en tout cas conseil qu'on suivra juste après l'émission, docteur Léo, merci.
Revers de la médaille, veilleux de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq. Et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fredaines. La barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté de rut, le rut, le rut, le rut.
Eh oui, la bonne santé, c'est quand on entend votre voix, docteur Guillaume.
Oh, merci, bonsoir.
Cette semaine, vous nous parlez des bienfaits de dormir nu.
Oui, c'est l'astuce santé bonheur, qui concerne les hommes. Il faut laisser tomber votre pyjama et dormir nu pour une meilleure santé. Donc, je vous explique un peu le concept. En fait, selon une étude récente, porter un caleçon plutôt qu'un slip ou un boxeur le jour et dormir nu la nuit améliorerait la qualité du sperme. Donc je vous explique, tout le monde a l'air passionné.
Ah mais complètement. Ouais, j'aime beaucoup cette chronique.
Alors avis aux papas potentiels qui nous écoutent ce soir, j'en suis sûr qu'il y en a plein, il y en a peut-être même qui sont papas et qui ne le savent pas bien sûr. Alors la paternité commence dans le pantalon, et oui plus précisément dans les sous-vêtements. Afin d'optimiser leur capacité à se reproduire, ces messieurs, docteur Loïc, ça vous concerne aussi.
Ah mais je prends des notes.
Porter des caleçons le jour et dormir nu la nuit. Donc cette étude, publiée dans la revue Science Alert, mon anglais est bien meilleur que celui de Dr. Loïc, nous le noterons.
Tout ça se paiera.
Voilà. Les hommes qui portent des caleçons pendant la journée et dorment nus voient l'ADN de leur sperme significativement moins endommagé. J'ai du mal aujourd'hui. Alors contrairement à ceux qui portent des sous-vêtements serrés, de jour comme de nuit, le type de sous-vêtements porté pendant la journée et au lit est associé à la qualité du sperme, nous explique Catherine Sapra qui a dirigé l'étude. Elle a dû...
Oui, du coup, plaisir, ça doit être très mal cette étude de dire.
Plaisir, Catherine. Alors, trop de chaleur dans le slip tue le spermatozoïde. Et oui, c'est ça en fait. Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont suivi 500 hommes pendant une année. Ils ont observé leur choix de sous-vêtements et la qualité de leur sperme. Et les chercheurs en ont tiré la conclusion suivante. Les hommes qui dorment nus et font usage de caleçons pendant la journée ont 25% de fragmentation d'ADN, c'est-à-dire la rupture et lésion liée à l'appareil génétique du spermatozoïde, hein, si on veut faire compliqué, en moins par rapport aux autres. Donc en fait, les scientifiques expliquent cette segmentation par l'exposition à la chaleur des sous-vêtements serrés sur les testicules. La température des testicules augmente à cause de l'exposition de la chaleur due au port des sous-vêtements serrés. Et oui, parce que les testicules préfèrent être à la fraîche. Et oui, c'est important de le souligner. Donc optez donc au plus large le jour et rien du tout la nuit, car si les testicules sont à l'extérieur du corps, c'est justement pour être plus au frais. Les spermatozoïdes ne survivraient pas par 37 degrés.
Moi, je commence à me déshabiller, hein, du coup.
C'est bon,
pour les auditeurs qui ont l'image, on continue l'émission.
Surtout avec ce froid-là, ils risquent pas de mourir. Alors, donc avec ces études, les chercheurs espèrent sensibiliser les hommes, et donc Dr Loïc, sur le choix de leurs sous-vêtements s'ils souhaitent préserver leur capacité reproductrice. Alors, les scientifiques veulent également observer si les partenaires féminines de ces hommes, respectant les recommandations, tombent enceintes plus rapidement. Pourquoi pas ? Tant qu'à faire, on se fait plaisir, on continue l'étude, va savoir.
Ça, elle a l'air sympa en tout cas. Oui,
salut, je m'appelle Catherine, veux-tu venir dormir nue et me mettre enceinte ? Ben, c'est pour une étude. Non, non, c'est pour une étude.
C'est dingue le nombre de voix différentes qu'on a dans cette émission. Alors, en attendant, les papas éventuels qui nous écoutent ou les hommes qui veulent simplement s'occuper de leur qualité de sperme, Dr Loïc, je vous regarde, peuvent tester la méthode afin de protéger leur appareil de procréation. Dr Loïc, est-ce que vous dormez nu ?
Bah, en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés pour que je participe à l'étude, www.radiocampusparis.org, hein, contactez-nous directement.
Là, on recherche plus docteur.
Oui, ou des docteurs Marion. Bah, écoutez, on va faire des
Julie,
essais.
C'est juste votre après... tour maintenant.
Ouais, exactement. Juste après l'émission, on se fait des. Bon, on a qu'à refaire l'étude.
Pourquoi pas ?
Je pense qu'on
tout
a assez.
Ouais,
je...
l'idée.
En tout cas, docteur Marion, vous êtes partante. Hein. Oh, I could hide beneath the wing of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings, and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold, and it sings. Sur Radio Campus Paris pour une petite consultation entre amis spéciale best-of dans laquelle vous retrouverez le meilleur et le pire de nos chroniqueurs. Vous êtes sur le 93.9 et c'est une très bonne idée.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Et docteur Julie, comme toutes les semaines, vous êtes allé fouiner sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine. Alors la perle, elle est quand même très bien. Mon bébé peut-il lui-même tomber enceinte si je fais l'amour alors que je suis moi-même enceinte ?
Oui, alors c'est le message de Florencia du 59 que je vais vous lire tout de suite. Donc, bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte ? Je me suis renseignée, je peux vous affirmer que mon bébé peut tomber enceinte pendant ma grossesse seulement si c'est une fille. Je pense d'ailleurs qu'elle est déjà enceinte. On m'a conseillé de ne plus faire l'amour, sinon il y aurait un risque que le bébé de mon bébé tombe elle aussi enceinte.
Wow.
Et je tomberai donc dans une boucle infinie. Je finis le message car c'est assez drôle. Florencia du 59 nous dit « J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. »
Waouh. Donc ça veut dire oui, parce que du coup ça pourrait être intéressant, parce que le fœtus du fœtus du fœtus du fœtus du fœtus pourrait lui être mais c'est vrai que ça serait
infini.
Infini. Mais alors du coup ça décalerait de 9 mois à chaque fois, c'est ça le ça pourrait être intéressant du coup.
Voilà, je creuse de mon côté, voilà. Pour l'instant,
c'est direct. Eh bien, Florencia serait grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, en fait, quand elle accoucherait.
Voilà.
C'est pas mal, le miracle de la vie.
Le bébé naît et il accouche.
Voilà, c'est complexe, ça donne le tournis.
Allez, évidemment, vous répondez à Florencia.
Voilà. Avant toute chose, voilà, je voudrais répondre à cette question. Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant sa grossesse? Donc, absolument. Donc, si vous menez une grossesse sans problème, vous pouvez faire l'amour jusqu'au début du travail. Cependant, si vous rencontrez des soucis pendant votre grossesse, il faut d'abord en parler à son gynécologue. Bien sûr, ça va de soi. Donc, les rapports sexuels vont-ils faire mal au bébé? Vous ne ferez pas mal à bébé en faisant l'amour, même si votre partenaire est au-dessus de vous. L'épais bouchon muqueux qui ferme l'utérus prévient tout risque d'infection. Le liquide amniotique et les muscles puissants de votre utérus protègent aussi votre bébé. Si votre enfant remue un peu après l'orgasme, ce n'est pas parce qu'il sait ce qu'il se passe ou qu'il a mal, mais juste parce que votre cœur bat très vite. Est-ce que ça sera aussi bien que d'habitude?
Et même si mieux. On vous pose la question, on a envie de savoir, voilà. Ça par contre.
Je suis très intéressée. Et même mieux pour certaines femmes. D'autres trouveront ça moins bien, en fait. L'afflux de sang vers la zone pelvienne peut provoquer un engorgement de la zone génitale et augmenter les sensations. Mais chez d'autres femmes, cet engorgement peut laisser une désagréable sensation de grosseur après le rapport sexuel. Et voilà.
Donc en tout cas, on peut avoir des relations sexuelles pendant sa grossesse. En tout cas, il n'y a pas de risque que le fœtus tombe enceinte. Ça, là-dessus, on est comme assez formel.
Absolument pas. Florencia.
Merci.
Rassurez-vous, la mise en abîme ne se fera pas.
Dommage. Merci en tout cas, docteur Julie, pour le pire et le meilleur du forum.
ODI, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Alors donc l'expression de la semaine est garder son sang-froid, docteur Adrien.
Tout à fait, docteur Loïc.
Alors ça veut dire quoi concrètement?
Alors, garder son sang-froid, c'est dire conserver la maîtrise de soi-même, hein, tout simplement. Je pense que les gens sont relativement
au courant. Ça, on l'avait un peu deviné, on disait. Voilà. Mais vous gardez votre sang-froid, oui, on sait à peu près ce que ça veut dire. Mais alors, par contre, ce qu'on ne sait pas, ce sont les origines. Alors, d'où ça vient?
Alors, d'où ça vient? Donc, garder son sang-froid, en fait, au départ, ça date du XIVe siècle. Et à l'époque, c'est ce qu'on appelait une locution adverbiale. On disait de froissant, et ça voulait dire de propos délibérés.
Donc de froid sang.
De froid sang, voilà.
On inverse les deux mots.
Sang froid, de froid sang. Ah,
pas mal.
Donc voilà, la différence, hein, c'est que sang froid, c'est une locution adverbiale, c'est-à-dire que le froid se rapporte à sang, alors que le sang froid en lui-même est un nom. Voilà. Pour la petite anecdote.
Alors retournons au XIVe siècle.
Imaginez-vous le XIVe siècle, dans cet univers médiéval sans pitié et sans merci, on avait sans doute le coup d'épée facile. Aussi, le chevalier Gontran, l'appellerons-nous, victime d'un affront, n'en restera pas là. Il demande réparation à l'auteur de des inepties proférées à son encontre. Bon, voilà, ce chevalier-là, il est plutôt sympa, hein. Du coup, quand il s'aperçoit que le zig en question n'est autre que le chevalier Gédéon, un vieux déchu qui avait pris pour habitude de reconnecter avec sa grandeur passée à l'aide d'un hydromel pour le moins frelaté, le type était pas mal connu à l'époque pour sa mauvaise habitude de raconter des histoires. Sauf que là, pas de bol, le chevalier Gontran, faut pas le chercher. Ainsi, quand celui-ci rencontre Gédéon, il lui dit ceci. « Tes propos n'étaient pas tenus de froissant, mais je m'en vais t'aussir sur le champ, vilain imposteur. » Que l'on pourrait traduire aujourd'hui pour les jeunes par « t'étais foncedé, mais je vais te fumer direct baltringue ».
Pas mal, j'aime bien la traduction parce que ça me parle un peu mieux.
Voilà, mais oui, c'est pour ça que je l'avais fait, figurez-vous. Mais je m'égare. Donc 300 ans plus tard, on est donc au quel siècle?
Je dirais 17e.
17e, bien joué. Vous êtes bon en maths. Donc le sens n'a pas trop bougé au 17e siècle, mais les mots, oui, comme je vous le disais tout à l'heure. On a donc promu la locution au rang de nom et on a le sang-froid, avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans les images liées au comportement humain, la température du sang a une certaine importance, hein, quand même, puisque ne dit-on pas de quelqu'un de très impatient ou qu'il est prêt à éclater, qu'il a le sang qui bout. Il est donc normal qu'à l'autre extrémité de l'échelle des températures, celui dont le sang est très loin de bouillir reste zen et imperturbable. Pour finir, docteur Loïc, sachez que cette expression se traduit littéralement dans beaucoup de langues. Certains, cependant, ont su y ajouter une petite touche de fantaisie. Aussi, un anglophone vous dira dans une situation de crise qu'il reste, ou pas, aussi frais qu'un concombre, docteur Loïc, ce qui ne manque pas de panache, vous en conviendrez.
Exactement, et on reste frais, même comme un concombre, docteur Adrien.
On est toujours frais comme des concombres.
Voilà, il faut bien dire les deux syllabes. En vous écoutant, merci docteur Adrien.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, on danse déjà dans le studio, docteur Marion, avec le mot du médecin, et aujourd'hui vous nous parlez de la cacostomie.
Tout à fait, la cacostomie, du grec kakaos, qui veut dire mauvais, et stoma, qui veut dire bouche. Je vous le donne donc en mille, docteur Loïc, on parle de...
Je devrais tendance à dire de mauvaise haleine.
Alors, c'est ça.
Donc, par exemple, faisons peut-être une petite mise en situation, si je peux
mise
me permettre.
Mise en situation sketch.
Mise en situation sketch, parti. Attention.
Attention.
Mon ami Guillaume, votre cacostomie me révulse.
C'est positif ou négatif?
Tu peux lui clapper, Guillaume.
Ok, c'est négatif.
Tu démarches, Carole. Calme, le festival, ça vous dit quelque chose?
On est deux mondes, hein.
Prenez un chewing-gum?
Oh non,
merci. Oh, si, si, prenez un
chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Marion.
Contrairement donc à la vasectomie, ce n'est pas quelque chose qui vous ferait mal ou qui vous importunerait de manière générale, cette mauvaise haleine. Non, là, pour le coup, on serait plutôt les autres qui en pâtiraient.
Bon alors, concrètement, ça vient d'où la cacostomie, hein?
Alors, 9 fois sur 10, les cas de cacostomie... Oh là là,
les
cacostomie. Voilà, les cas de cacostomie ont pour origine le peu de soins avec lequel on aborde la question de l'hygiène bucco-dentaire. Ainsi, des caries dentaires mal soignées ou négligées, une accumulation de plaques dentaires ou une infection des gencives ou de la langue peuvent être source de mauvaises odeurs et embarrasser ceux qui nous approchent.
Alors, pas que, parce qu'il y a les caries dentaires, mais il y a autre chose également.
Tout à fait, effectivement, Loïc, il peut aussi arriver que la cacostomie ait plutôt son origine à l'intérieur, plus profond dans notre corps, c'est-à-dire que l'odeur est une source d'une affection au-delà de la bouche.
Vous nous faites rêver cette semaine, docteur Marion.
Oui, je sais, j'ai essayé de faire ça pour vous, chers auditeurs. Donc une inflammation, par exemple, des amygdales, une inflammation des bronches avec ou sans infection, ou tout simplement des troubles du fonctionnement du tube digestif, ou même une sinusite, une infection des sinus. Autant de maladies qui sont capables de nous faire empester et nous rendre infréquentables. Enfin, on a tous un moment dans la journée, notamment le matin, une cacostomie plus ou moins redoutable, ou plus ou moins persistante, hein, docteur Loïc, docteur Guillaume.
Oui, alors non, moi ça ne me concerne pas,
mais c'est vrai que c'est bien
que vous parliez de votre cas, docteur Marion.
vous êtes salaud aujourd'hui. Et malheureusement, il y en a chez qui c'est vraiment un problème et pas vraiment passager, hein. La cacostomie plante la tente, elle s'installe. Je parle bien sûr de cette haleine fétide, telle un remugle d'égout mal irrigué que l'on a tous le matin au réveil, sans exception aucune. Vous me ferez pas le coup, même les plus hygiéniques d'entre vous puent sévèrement du goulot, comme si chacun avait un cadavre en décomposition caché derrière les amygdales. Mais je rassure nos chers auditeurs, sur une échelle de 1 à 5, docteur Loïc et docteur Guillaume, vous le confirmerez, le niveau de cacostomie de l'équipe reste peu élevé.
C'est ça.
C'est vrai, merci en tout cas, vous nous rassurez, docteur Marion, merci pour ce mot d'esprit et mot du soir.
Oh, n'ayez pas peur, monsieur. On va soigner votre bobo.
Alors, toutes les semaines, hein, docteur Marion, vous allez effectivement sur le forum, sur les forums internet. Vous nous avez trouvé, en tout cas, la perle de la semaine, c'est l'hernie fiscale.
Oui, bien sûr, on va chez le docteur et on dit « Mon cher docteur, j'ai une hernie fiscale ».
sympa l'hernie fiscale.
Bien sûr, on ne dit pas j'ai une hernie fiscale, mais une hernie discale. Et je suis bien passée pour vous en parler. Vous m'avez entendu ces 15 derniers jours agoniser à l'antenne et je sais que vous êtes inquiétée et demandez quel mot pouvait bien me mettre à plat. Eh bien, c'était pas les agents fiscaux à ma recherche qui m'inquiétaient, mais bien un problème de disque. Entre chacune des 24 vertèbres mobiles de la colonne vertébrale se trouve un disque intervertébral formé par une structure fibreuse et solide qui contient un noyau gélatineux. Et ces disques, en fait, donnent une souplesse à la colonne et servent d'amortisseur en cas de choc. Et en fait, une hernie discale se produit lorsqu'un disque s'affaiblit, se fissure ou se rompt et qu'une partie du noyau gélatineux fait irruption. Tout simplement.
Tout simplement, et on parle d'hernie discale. Merci, docteur Marion. Et sans plus attendre, on retrouve nos brèves de salle d'attente. On a le temps d'en faire au moins 2-3. Allez, qu'a-t-on retrouvé dans le cerveau d'un Américain?
Un chat.
Non, pas un chat. Pas un chat.
Une balle, un clou.
Non.
Une dent.
Une dent, non.
Une petite cuillère.
Non.
C'est quoi, une partie du corps?
Non, c'est pas une partie du corps.
Un corps étranger.
C'est pas un corps étranger, on peut pas dire
ça.
C'est, c'est une sorte d'organisme un peu. C'est comme un organisme vivant.
Son jumeau.
Un ver.
Ah ouais, vous êtes pas loin, docteur Adrien. Un ver.
Un
parasite.
Ver, ouais, le ver et.
Non, c'est un ténia.
C'est un ver solitaire. Un ver solitaire, exactement, qu'on a retrouvé en fait dans le cerveau d'un Américain. Voilà, dans le même cerveau, le cerveau de Louis Ortiz. Alors, rassurez-vous, il a été opéré. Et alors c'est un parasite qu'on retrouve généralement plutôt effectivement dans la zone plutôt digestive et intestinale. Et bien là, voilà, ils l'ont retrouvé dans un kyste, un ver solitaire. On ne sait pas encore du tout pourquoi ce ver était là. Oui, c'est très bizarre.
Quand on a le ténia, on peut maigrir. Est-ce que du coup, quand on a le ténia dans le cerveau, est-ce qu'on peut devenir un peu plus stupide?
Un peu plus stupide. Ça, j'en sais rien. Allez, une dernière, et on part juste à côté de Paris, à Mont-Saint-Montois, et un jeune créateur a fait une tombe pour sa mère en forme de la tombe. Alors sa mère est décédée, il a fait une tombe et du coup
c'était en rapport avec le métier de sa mère.
Non, c'est un truc alors par contre c'est un truc pratique pour le dimanche après-midi, le dimanche midi,
qu'une petite table.
Demain,
une table, bien joué docteur Léo. Une table, exactement, il crée une tombe en forme de table pour sa mère. Il dit bah c'est pratique, il rentre des Philippines, il dit voilà, là la fête des morts est joyeuse et donc du coup on a l'occasion de manger effectivement auprès des morts
sur
et donc là on peut manger sur maman. Et c'est déjà la fin de petite consultation entre amis. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30, 18h, à la technique et à la réalisation de cette émission best-of. Il y avait nos deux réalisateurs préférés, Étienne et Quentin. Après nous, l'œil à l'écoute. À 19h, vous retrouvez Tropical Club. Plus d'infos sur www.radiocampusparis.org. Vous pouvez podcaster vos émissions petite consultation entre amis. Et on vous souhaite toute l'équipe bonne année.
Bonne année.
Allez, docteur Julien, t'es où? C'est la fête. Allez, on vous dit très bonne année et surtout bonne santé.
Bonne santé.
Allez, bisous, la semaine prochaine. Ciao.
Ciao. Saint.